I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. La semaine dernière, j'ai, comme plein de gens, vu ressurgir dans l'actu un nom que je pensais enfoui dans l'internet du passé. MySpace, l'ancêtre du web social. Ce portail que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où il y a de ça une bonne grosse dizaine d'années, les musiciens, amateurs et professionnels, postaient leurs créations, échangeaient, faisaient leurs promos, découvraient collectivement tout ce que le numérique allait changer à la pratique des arts. MySpace, qui n'a que très difficilement survécu à la déferlante Facebook, a réussi un exploit peu banal, celui de paumer en toute simplicité 50 millions de morceaux jusque-là hébergés dans ses pages. Les titres de 14 millions d'artistes, publiés entre 2003 et 2015, ont donc tout bonnement disparu, la faute officiellement à une migration de serveurs mal calibrée. Alors passons sur le fait que de nombreux spécialistes du web estiment qu'il s'agirait surtout d'un moyen pour l'entreprise de s'éviter les coûts que représente le maintien en ligne et le transfert de tous ces morceaux, et concentrons-nous sur cette question. Qu'est-ce que tout ça nous dit de la manière dont notre rapport à nos archives a évolué avec le numérique? Est-ce qu'on ne se serait pas un peu rapidement convaincu que tout ce que nous mettions sur le web y resterait pour toujours? Qu'est-ce que ça change dans l'approche que nous avons de notre mémoire collective et individuelle. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Il se trouve que par un hasard digne d'un film français, je m'étais aperçu tout récemment qu'il y avait un petit souci avec MySpace. Il faut savoir que dans un passé pas si lointain, j'ai moi-même eu non pas un, mais des profils MySpace, puisque j'ai longtemps fait de la musique. Il y a une dizaine de jours, sans doute du fait d'un petit accès de nostalgie, somme toute assez banal chez tout trentenaire qui se respecte, je me suis dit tiens, allons vite faire et écouter les vieux titres de Silence Radio qui traînent sur le net. Silence Radio, c'était mon groupe, à Brest. Et là, impossible d'en écouter une seule seconde. Les titres apparaissaient bien sur la page, mais ils ne se lançaient pas. J'ai mis ça sur le compte d'un bug temporaire, ignorant pour le coup la disparition des 50 millions de morceaux dont je parlais en intro. J'ai fouillé mes disques durs pour retrouver ces archives vieilles de plus de 10 ans, précisément la toute dernière séance d'enregistrement du groupe en 2006, mais sans succès, rien chez moi. Peut-être que mes anciens camarades de Silence Radio ont été plus malins, par exemple Antoine, le chanteur et guitariste, toujours musicien sous le pseudo de Monolithe Noir.
Toi ?
Yo, ça va poulet ?
Ça va ?
Ouais, toi ?
Alors, c'est quoi
ce passé? Ouais, bah alors, t'as vu le truc de MySpace ou pas? Cette histoire qu'ils ont,
oui.
ils ont perdu 50 millions de...
Ils ont perdu nos données.
Ils ont perdu nos données, c'est ça. Et ouais. Moi, je me demandais, est-ce que t'as gardé, toi, des archives de Silence Radio, des trucs...
J'ai pas d'archives de Silence Radio parce que je comptais vraiment sur toi pour tout garder, en fait.
Putain, c'est craignos. Tu pensais que j'étais un peu la mémoire de ce groupe, quoi.
T'es un peu la mémoire de ce groupe. Je sais même que t'as des émissions de radio de l'époque du lycée que
ouais.
T'as même enregistré sur cassette.
C'est vrai, j'ai gardé ça aussi. Ouais. C'est vrai que ouais. J'archive, moi, normalement, j'archive vachement de trucs, mais là, tu vois, j'avais fait un peu confiance à la technologie, donc j'ai pas gardé les derniers morceaux de la dernière période qu'on avait mis sur MySpace.
Et ouais, c'est bien le seul truc qu'on n'a pas gardé. Et surtout, moi, je m'étais déjà connecté plusieurs reprises pour essayer de voir ce qu'il en était. Mais en fait, l'interface avait tellement changé que c'était impossible de mettre la main sur quoi que ce soit.
Ouais, de récupérer les titres.
Oui.
Est-ce que toi, tu as quel rapport du coup avec ces questions-là en tant que musicien? Ça te fait flipper de te dire que potentiellement tu peux perdre ton boulot ou tes archives un peu d'un seul coup de souris.
Donc avec le temps, j'ai avec une certaine discipline de l'archivage quand même avec les disques durs. Le problème c'était plutôt les déménagements successifs avec les disques durs que j'ai perdus. J'ai même perdu tous mes CD de l'époque.
Ah oui.
Et donc j'ai plus vraiment d'archives de tout ce qui précède mon déménagement à Bruxelles, je le fais tout en me disant bon bah voilà, si c'est perdu c'est pas dramatique, mais il y a une espèce de confiance, il y a quand même une confiance bizarrement, mais je sais qu'elle est pas fondée du tout cette confiance.
Et moi je me posais une question beaucoup plus on va dire à la fois technique et artistique. Comme toi, tu composes des chansons depuis, bah, en gros, qu'on a, je sais pas, 13-15 ans, 13-14 ans, depuis en gros, qu'on était, oui. Depuis le temps où on était au lycée à peu près. Je me demande de quelle manière le fait, parce qu'on a vu arriver justement tous les outils numériques et tout pour archiver nos trucs, je me demandais de quelle manière ça jouait sur ta mémoire en tant que musicien. C'est genre si tu trouves que ça a modifié ta manière de te souvenir de ce que toi-même t'as composé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Disons que en fait l'archivage, enfin je veux dire le fait de partager sa musique sur Internet allait vraiment de pair avec finalement l'écho qu'on pouvait en trouver. J'ai eu une tendance finalement, j'ai l'impression que les choses sont vraiment très fort accélérées. Donc il y a eu à partir du moment où il y avait MySpace, il y a eu une espèce comme ça de fuite en avant, je dirais, qui s'est dramatisée, qui s'est un peu enclenchée, où on savait qu'il fallait aller vite. On commençait à ressentir qu'il fallait maintenir un espèce de flux tendu de contenu, qui fait que on se retournait pas tant que ça sur. En tout cas, moi, je me suis pas tant que ça retourné sur ce que j'ai fait ces dernières années.
Et du coup, par exemple, tu t'as un peu oublié ces morceaux que t'avais toi-même composés et tout ça, tu serais plus capable forcément de les jouer ou tout ça. T'as délesté une partie de cette mémoire sur le web, on va dire, quelque part.
Oui, j'irais pas aussi fort là-dessus quand même, mais vraiment, c'est plus quelque chose de... quelque chose d'humain, quoi. Enfin, je dirais pas que c'est quand même pas désincarné, tu vois. C'est, ouais. Comme je te dis, c'est vraiment la mémoire, pour moi, c'est la mémoire du fait de la numérisation de la musique est vraiment associée à cette recherche d'un public, ouais. Mais pas forcément le contenu lui-même.
Bon, échec côté Antoine, finalement miracle malgré tout de la technologie moderne, en fouillant dans mes archives de messages, je suis retombé sur des échanges de fichiers de l'époque, j'ai quand même pu récupérer un petit MP3 de ces sessions perdues. Mais derrière l'anecdote toute personnelle de mes exploits passés, reste une question en suspens. Qu'est-ce que cette histoire d'archives défaillantes chez MySpace et de disparition générale de 12 ans de musique dit de notre rapport à la mémoire avec l'irruption dans nos vies du numérique ? J'ai posé la question à Oriane de Céligny, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 13, spécialiste des écritures numériques.
Le numérique inaugure de toute façon un rapport assez inédit à la mémoire, avec qui est parcouru de paradoxes, de tensions. On a l'impression que tout est archivable et que tout le sera toujours. Et en même temps, beaucoup de traces disparaissent, comme l'exemple de MySpace. En même temps, tout semble parfois mis sur le même niveau, puisque tout est archivable. Et puis, on archive nous-mêmes. Un certain nombre de sociétés, d'entreprises privées archivent pour nous, conservent des traces, conservent des choses qu'on n'aimerait pas forcément qu'ils conservent. Enfin, donc, il y a plein de tensions autour de cette question, de tensions et de paradoxes autour de cette question des archives numériques, des traces, de la mémoire, du rapport à l'identité, du rapport à ce qu'on construit soi-même, ce que les autres construisent pour nous. Est-ce que deviennent en fait ces traces, est-ce qu'elles sont des archives, est-ce que ce sont des documents qui sont destinés à être réutilisés ou pas, enfin voilà, il y a plein de choses très très diverses, mais la société numérique produit une chose et son contraire, une trace et l'oubli de cette trace. Parfois aussi il y a la question du droit à l'oubli, enfin bref, il y a...
Oui, il y a un grand nombre de thématiques derrière ça. Surtout ce que ça, en tout cas, si on prend l'exemple de MySpace et si je parle de mon point de vue à moi, de victime de cet effaçage numérique, j'ai la sensation qu'on s'est un peu bercé dans l'illusion que
que tout ce qu'on postait en ligne, quelque part, allait y rester pour toujours. Sauf que c'est pas vrai.
Oui, mais ça, c'est un des problèmes de l'Internet, d'une manière générale. C'est qu'on a l'impression que la facilité d'accès et la rapidité de publication, en fait, va donner accès à ces documents, à ces contenus, à ces traces de manière pérenne. Alors qu'en fait, le web ne cesse de changer et on est pris dans une espèce de flux permanent d'instantanéité qui ne demeure pas forcément, et le web ne cesse de se changer, de se modifier. Et c'est aussi la difficulté quand on travaille sur le web, quand on réfléchit un petit peu à toutes ces questions-là, justement, de comprendre qu'il faut absolument tout le temps faire nos propres archives pour pouvoir retravailler dessus. Alors, moi, en tant que chercheur, j'en ai un peu une conscience. Mais je suis toujours intriguée et impressionnée par la vitesse de remplacement, d'effacement, cette instantanéité qui est pas un vain mot, quoi, on est dans l'instant, là où on a l'impression qu'une fois que c'est publié, mis en ligne, rendu public, ça va rester. Or, le numérique ne produit pas des choses qui demeurent, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a cette illusion.
Et comment est-ce qu'on explique cette illusion, justement ? C'est uniquement lié à cette culture de l'instant ?
Je pense qu'il y a le fait de rendre public le geste, en fait, de donner à lire, de donner à voir, de donner à écouter.
On l'archive, mais en même temps, on le publie, donc on le présente au public.
Voilà. Donc, le fait de rendre public quelque chose, quel que soit le contenu, en fait, peut-être qu'on est encore sur des modèles anciens. Les modes de publicisation des choses, des contenus avec le journal, avec l'imprimé d'une manière générale.
Ou avec le disque pour ce qui est de la musique.
Ou avec le disque, bien sûr, nous ont habitués en fait à ce que ce geste soit assorti d'une pérennité, d'une trace qui dure. Or, le support, le matériel numérique ne l'est pas. Enfin, c'est très labile, c'est très plastique, ça change tout le temps, c'est très... voilà.
Mais il y a aussi quelque chose, on va dire, une réflexion que je ne m'étais pas encore faite, mais qui, pour le coup, la saute un peu au visage, c'est que c'est la façon dont le numérique peut être fragile, justement. Et ce qui faisait sa différence, pour le coup, avec le support physique, où forcément un livre, c'est périssable, un disque, ça peut s'abîmer et donc être détruit. Là où on a encore du mal, je trouve, à avoir la perception que le numérique, lui aussi, peut se détruire, s'effacer. On le voit tellement puissant, tellement partout, qu'on a du mal à l'identifier comme étant potentiellement fragile.
Et en même temps, quand tous les jours on consulte des profils Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, on voit bien que une publication remplace une autre. Alors chacun a son propre petit stock de publications qui le concerne, sa marque, son nom ou son identité. Et en même temps, enfin un clou chasse l'autre, une publication chasse l'autre. Mais comme peut-être que en fait on est vraiment dans l'instant et l'impression de voir quelque chose qui est édité, éditorialisé, donné à voir, donné à lire, selon des règles qui finalement sont assez proches de ce qui existait jusque-là, parce qu'on se pose un peu le même type de questions dès lors qu'on donne à voir, on donne à lire, etc. Laisse penser que ça va rester alors que ça ne l'est pas. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y a cette impression que le geste de publication va être assorti d'une certaine pérennité, et donc une inadéquation du modèle.
Qu'est-ce qui a changé également ? Vous avez beaucoup travaillé, vous, sur le rapport à l'écriture, notamment vis-à-vis du numérique. Ça recoupe ces questions musicales, on va dire, pour MySpace. On est dans le rapport à la production culturelle. Est-ce que, justement, le numérique change aussi la perception qu'ont les producteurs de contenu culturel de leur œuvre et de la manière dont elle s'inscrit dans le temps ?
Ben, c'est l'intérêt aussi du numérique qui est de toujours pouvoir amender, remplacer, modifier, agrandir, compléter le geste d'écriture qui peut être en permanence remplacé parce que finalement les conditions pour y accéder sont simples, enfin relativement simples, que c'est pas gravé dans le marbre et qu'on peut réimprimer, pas réimprimer justement, mais
réécrire,
rajouter, etc. Là où les coûts de publication, de l'imprimer était complètement et de gravure pour un disque était évidemment beaucoup plus
important.
Important, merci, tout simplement. Donc après, c'est un travail d'auteur, je pense, effectivement, de signaler là où il y a davantage de travail, d'éditorialisation, de complexité, d'aboutissement, en fait, de l'œuvre. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'à certains moments, des artistes choisissent d'autres, les artistes, les écrivains, certains auteurs auto-édités aussi, choisissent des canaux pour justement sortir certaines productions du flux du reste pour en montrer justement la valeur et la détacher, parce que le rapport à cette instantanéité, à ce flux permanent, c'est aussi que tout est mis sur le même niveau et donc il faut se donner d'autres cadres pour apprécier, pour donner du sens, de apprécier la valeur des choses en fait.
Et du point de vue du public, du grand public, de nous tous, finalement, moi, ce qui m'interroge avec une affaire comme l'affaire de MySpace, la disparition donc de toute une partie, on va dire, de la mémoire collective, c'est la manière dont ce qu'on aura produit, vu, lu, vécu pendant toutes ces années dans nos vies numériques va survivre au temps. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre comme ça des paracoups, des grands pans, des pans entiers de la mémoire collective, oui, de alors que ce soit de l'humanité tout entière pour le coup, pour MySpace, parce que c'était des pages internationales ou de différentes cultures, etc.
Bah oui, mais ça, c'est un des paradoxes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que à la fois on stocke énormément, et en même temps on est toujours à la merci d'un problème technique, de changement de serveur, de problèmes de réseau qui peuvent faire disparaître des pans entiers de la culture et qui renvoie aussi à l'idée que le numérique s'est fragmenté. De toute façon, le numérique fragmente l'ensemble des choses. Alors, volontairement, pour pouvoir exploiter, on découpe des émissions, on découpe des contenus pour pouvoir en exploiter chacun des bouts, chacun des fragments de manière individuelle et en même temps aussi de manière involontaire où on a des pans qui disparaissent. Alors il y a des initiatives pour pallier ce problème-là. Je pense par exemple à quelque chose qui était né quasiment avec le web, la Wayback Machine, qui permet de qui photographie, qui permet de donner des états du web à un moment donné pour en faire l'histoire, parce que quand il y a des trous, il n'y a pas d'histoire en fait, et c'est notre histoire effectivement qui s'écrit différemment ou qui ne peut plus être écrite de la même manière quand il y a des trous. Et puis le problème, c'est que quand il y a des trous, il y a des formes d'autres histoires qui sont racontées. Oui. Il y a du mythe, il y a des mythologies. Enfin bref, c'est d'autres problèmes. Mais le numérique fabrique aussi des trous, en fait. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de la disparition involontaire. Et c'est d'autant plus problématique que l'impression au quotidien n'est pas celle de la disparition, mais celle de
l'accumulation, au contraire.
De l'accumulation, oui.
Il y a aussi un autre paradoxe derrière tout ça, c'est que cette accumulation, justement, elle repose, vous le disiez tout à l'heure, sur une industrie qui est fragmentée et qui surtout est une industrie, c'est-à-dire qu'elle repose sur des acteurs économiques privés qui peuvent, au gré de leurs besoins ou de leurs nécessités commerciales, décider de faire le tri dans les données, d'en jeter une partie et donc d'abandonner une partie de l'histoire. Et pour l'instant, les pouvoirs publics, ou en tout cas ceux qui devraient être un peu en charge de protéger cette histoire, n'ont pas la main, tout simplement, sur ce qui est en train de se produire.
Oui, bah oui, tout à fait. Y a un exemple qui avait pas mal crispé et qui, à propos du livre, qui est la le débat entre, enfin, ou la tension entre Google Livre d'un côté et puis l'initiative de la BNF avec Gallica, Google Livre numérisant à tout va un certain nombre de choses, Gallica essayant de le faire autrement et mieux, mais avec beaucoup moins de moyens. Enfin, bon, et oui, tout à fait. C'est le problème de cet archivage qui est fait rapidement et de manière industrielle, mais en fonction d'objectifs qui peuvent être liés à des questions économiques, à du marketing, à la volonté d'établir des profils de consommateurs et qui fait fi de toute autre considération, je sais pas, anthropologique, historique.
L'histoire serait-elle à son tour victime du libéralisme débridé de l'économie numérique ? Une chose est sûre, pour l'instant, il nous incombe surtout de faire notre propre boulot d'archivage individuel si on veut éviter de perdre des gros bouts de mémoire. Perso, j'ai mis tous mes petits MP3 de Rock Brestois sur une clé USB flambant neuve. Merci à Antoine alias Monolithe Noir et à Auriane de Céligny pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Si par le plus grand des hasards vous suivez nos épisodes au quotidien via Apple Podcast, je vous invite à nous laisser 5 étoiles sur cette plateforme, nous vous en saurons gré. Abonnez-vous par ailleurs si ça n'est pas déjà fait sur l'appli de votre choix pour ne manquer aucune de nos aventures et à demain pour un nouvel épisode.
Binge. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.